en Occident de la perestroïka, de défendre la perestroïka, d'aider Gorbatchev à réaliser la perestroïka, alors que en Union soviétique, la réforme économique s'était d'ores et déjà arrêtée. La situation matérielle des populations continuait à se détériorer, l'impopularité de Gorbatchev ne cessait de grandir. Cet échec de Gorbatchev a bien des excuses, n'empêche que les gouvernements occidentaux n'aiment pas le regarder en face. Il vient de leur exploser à la figure avec les violentes manifestations qui, le 1er mai, ont permis de mesurer l'ampleur de la haine dont est l'objet le secrétaire général président. Les politiques et les commentateurs occidentaux se fondent ordinairement sur l'hypothèse que Gorbatchev n'est menacé que par les conservateurs. Cette version est celle que Gorbatchev a tout intérêt à leur vendre, car il passe ainsi pour le libéral qu'il faut défendre contre les méchants réactionnaires partisans du retour au communisme pur. Mais les conservateurs, dans les plus récentes élections, celles de la République de Russie, ont fait des scores lamentables. Je ne nie pas le danger conservateur, mais en réalité, la plus forte menace politique à laquelle doit aujourd'hui faire face Gorbatchev émane non de la droite, mais de la gauche, qui vient par exemple de gagner le contrôle des municipalités de Moscou et de Leningrad, excusez du peu. Regardez à qui répond, contre qui se défend, avec qui polémique Gorbatchev depuis un an. C'est toujours sur sa gauche qu'il bataille, contre Sakharov quand celui-ci vivait encore, contre Eltsine ou l'historien Yuri Afanassiev, contre le groupe radical dit interrégional, contre les mineurs en grève, contre le journal Faits et Arguments ou le journal Glasnost, contre les nationalités revendiquant leur indépendance. Il faut s'en rendre compte, pour les soviétiques en ce moment, la droite c'est Gorbatchev précisément. Cette qualification est évidemment très injuste, puisque si les manifestations du 1er mai ont pu avoir lieu, c'est quand même grâce à lui et à sa relative démocratisation. Mais en même temps, voilà 2 ans qu'il annonce semaine après semaine des réformes économiques et financières sensationnelles, lesquelles ne sont jamais appliquées. Pourquoi cet ajournement indéfini? Parce que je crois depuis un an à déferler le raz-de-marée démocratique en Europe centrale et que Gorbatchev a compris, à la lumière de cette expérience, qu'on ne peut pas réformer le communisme à moitié. Que voulait-il faire en Europe centrale? Pas ce qui s'y est passé, à savoir le basculage complet dans un programme de démocratie intégrale et d'économie capitaliste. Ce qu'il voulait, lui, c'était écarter les vieux dirigeants brejneviens et installer à leur place des communistes d'un type moderne et plus avenant. Egon Krenz en RDA, Urbanek en Tchécoslovaquie, Grosch en Hongrie. Or, un mouvement irrésistible a balayé en 3 mois dans tous ces pays les dirigeants du néo-communisme gorbatchevien. Le seul encore en place, c'est Iliescu en Roumanie, mais les Roumains ne semblent pas l'apprécier beaucoup. Gorbatchev voit donc en Union soviétique même s'ouvrir devant lui la perspective non plus d'une réforme progressive et contrôlée, mais d'une totale débâcle des structures économiques et politiques issues du léninisme. Parmi les inscriptions qui figuraient sur les banderoles des manifestants du 1er mai sur la place rouge, 2 m'ont particulièrement frappé. La première, président non élu égale dictateur, et l'autre, le socialisme non merci. Ces devises révèlent que désormais, ni la démocratisation partielle, ni la libéralisation économique du modéré, limité Gorbatchev ne paraissent suffisantes aux citoyens. Ils ont pris conscience, eux aussi, que la seule manière d'améliorer le socialisme,